Chapitre 2. Depuis l'accident de mes chéris, je n'étais plus jamais entré dans la maison de Dieu. Aussi, ma cicatrice intérieure se rouvrit lorsque je m'enfonçais en cet après-midi de fournaise dans l'église d'Issy-les-Moulineaux. Au cœur de l'allée, entre la rigueur trop dure des bancs, je distinguais encore les cercueils, dont l'un, si petit, avait soulevé la bouffée étranglée des sanglots. Tout dans l'édifice de pierre respirait ma souffrance. Une bouche glissa le long de mon oreille. Martin Leclerc, mon divisionnaire, se précipitait vers la sortie, le portable hurlant. « Je te laisse gérer !» ajouta-t-il en reluquant mes cheveux coupés à ras. « On a le feu vert du procureur Kelly pour la levée du corps et l'autopsie. On se voit tout à l'heure pour un point. » J'acquiesçais et me dirigeais vers un attroupement d'où grimpaient des haussements de voix et des crépitements de flash. En face, Jésus pleurait, traînant derrière lui ses siècles de calvaire. Le lieutenant Sibersky m'accosta avec cet air grave des mauvais jours. Sur sa gauche, les deux rangers du légiste dépassaient du confessionnal. « Bonjour, commissaire, » fit-il sans le sourire. « On a déjà vu des retours de congés plus gais. » Sa voix vibrait d'une assurance toute modérée. « Annonce. Ok. La porte derrière l'hôtel de gauche a été forcée au pied de biche. D'après le curé, c'est la deuxième fois qu'une effraction a lieu, la dernière, sans conséquence, remontant au trimestre dernier. Les techniciens de la scientifique ont relevé des empreintes un peu partout. L'enquête de proximité est en cours. Des inspecteurs interrogent les habitants des alentours. « Parle-moi de la victime. » Femme blanche, une cinquantaine d'années, aucune trace apparente de blessure ou de sévices. Les chevilles sont encore entravées, mais les mains ont été libérées de leurs cordes, abandonnées sur le sol. Les yeux étaient bandés avec du sparadrap. Le prêtre a retrouvé le corps agenouillé à 8h35 ce matin dans la loge des pénitents du confessionnal. Le crâne rasé était couvert de papillons. Je fronçai les sourcils. Des papillons. Morts. Vivants. 7 gros papillons à longues antennes avec le dessin d'une tête de mort sur l'abdomen. Quand on a essayé de les attraper au filet, ils ont crié. Un couinement terrifiant. Où sont-ils? Partis pour le labo. La lampe à ultraviolet a révélé sur la tête de la victime des taches blanchâtres, invisibles à l'œil nu, expliquant peut-être la présence de ces bestioles. L'entomologiste nous en dira plus.
D'accord. Un corps nu, rasé, les chevilles entravées, mais pas les mains. Des insectes sur le crâne, le tout dans une église. Du grand classique, quoi.
On ne peut pas plus classique, en effet. Pour en revenir au confessionnal, la partie centrale était ouverte, contrairement à la veille. Après sa découverte, le curé a immédiatement prévenu la police d'ici, qui a débarqué 15 minutes plus tard, talonné par nos équipes. Le légiste sortit du lieu de pardon. Van de Velde avait tout du militaire, l'intelligence en plus. Treillis, barbe d'une rigueur mathématique et un beau visage de roche dénué d'expression.
On y va pour le topo, commissaire?
Après une poignée de main, il m'invita à le suivre. Le cadavre m'apparut de dos, recroquevillé, tassé par le poids des chairs meurtries. La tête chauve et les avant-bras s'écrasaient sur un prie-dieu, tandis que l'index de la main droite, fermé, pointait sur le côté. Sous le tranchant d'un halogène à batterie, le crâne immaculé luisait. Van de Velde se faufila dans la loge.
On peut ordonner la levée du corps. Sans autopsie, impossible de déterminer la cause de la mort. Nul hématome ou blessure, aucun écoulement nasal ou buccal qui pourrait impliquer un décès par asphyxie. Le visage n'est pas cyanosé, pas de pétéchie, donc a priori pas d'étranglement.
De l'arrière, j'examinais la toile humaine avec l'œil d'un étrange passionné. Oubliez les trains miniatures et les sensibleries de comptoir. La machine Charcot, boulonnée d'insensibilité, reprenait du service.
Des rapports sexuels?
À première vue, non. Par contre, la victime a perdu énormément d'eau. Ses auréoles sur le sol et le prie-dieu témoignent d'une forte sudation.
On ne sue plus après la mort, je me trompe?
Non. La femme a été amenée ici vivante. Observation confirmée par le fait que le corps n'a pas été déplacé. Elle est morte dans ce confessionnal sans que je comprenne de quoi. Et ça m'énerve.
Je peux.
Il me laissa la place dans le confinement. Les sourcils, les aisselles et les poils pubiens de la victime manquaient aussi à l'appel.
Les techniciens ont ôté l'adhésif sur ses yeux?
Oui, du Chatterton, posé par-dessus les paupières. Vous verrez sur les épreuves photographiques.
Le médecin poursuivit alors que mon regard suivait la direction du doigt mort.
Dents saines et soignées, physique propre, mais ongles longs, y compris ceux des orteils. 4 d'entre eux, à la main droite, sont cassés ou arrachés, ce qui pourrait témoigner d'un enfermement forcé et prolongé.
Je me penchai par-dessus le prie-dieu, les narines attentives.
Oui, anticipa le légiste.
On sent des odeurs de parfum ou de crème présentes sur la totalité de la peau, même le crâne. Dans la bouche et aux commissures des lèvres, j'ai relevé les traces d'un composé sucré, foncé, peut-être du miel. Sans doute ce qui a retenu ces papillons. Les analyses sanguines et du contenu stomacal confirmeront. La lumière crue de l'halogène me cisaillait les pupilles. Plus j'emmagasinais d'informations, plus le trouble m'envahissait. De quoi était morte cette femme? Une idée sur l'heure du décès? D'après la rigidité cadavérique et la température rectale, je dirais au beau milieu de la nuit, entre 2 et 4 heures du matin. L'autopsie précisera. Van de Velde ôta ses gants de latex, rabattit le dessus de sa mallette lourde d'instruments tranchants, avant de s'enfiler une demi-bouteille d'eau. Je me tournai vers la chevelure blonde de Sibersky. Les chevilles sont ligotées, contrairement aux mains, volontairement déliées. L'index pointe cette partie du confessionnal. Le technicien chargé des relevés n'a rien décelé. Pas à ce que je sache, non. Ni empreinte, ni marque particulière. J'ordonnai au croque-mort d'emmener le cadavre pour l'institut médico-légal. Après leur départ, Sibersky plongea les mains dans les poches de son jean. Alors, commissaire, vous en pensez quoi? Je me pose surtout des questions. Pourquoi ici? Pourquoi vivante? Pourquoi rasée et nue? Le jeune lieutenant m'exposa ses impressions à chaud. La victime se trouvait dans la loge du pénitent. L'assassin, c'est lui, rendu dans la centrale, celle du confesseur, puisque la porte était ouverte. Tout dans la mise en scène indique donc le rituel de la confession. Le pécheur d'un côté, agenouillé, le confesseur de l'autre. Sauf que notre pécheresse n'est pas venue de son plein gré. Ça, c'est clair. Ses membres entravés prouvent qu'on l'a forcée à une certaine forme de soumission, peut-être physique, un effort ayant pu générer toute cette sueur, ou alors simplement auditive et verbale. Un truc du genre « Parle-moi, confesse tes péchés et Dieu te pardonnera ». Exactement. Quant à la nudité, voir une femme nue, attachée, agenouillée et réclamant son pardon, n'est-ce pas le symbole suprême de la domination, du rapport maître-esclave? Je clignai des yeux. Une cause possible, en effet, mais... J'embrassais l'espace, bras écartés. Regarde autour de toi. L'église forme un même bloc, orienté vers une mission unique. La prière, le don de soi, la foi. Tu vois, je n'y connais pas grand-chose en religion, à peine si j'ai lu la Bible. Mais je sais qu'à la Genèse, Adam et Ève étaient nus, aussi nus que notre victime. La pureté des premiers jours. La nudité originelle, celle de toutes les créatures de Dieu. Sibersky émit un drôle de sifflement. Oh là! Vous voulez me faire comprendre quoi, là? Juste que dans une scène de crime, l'environnement peut justifier les actes. Peut-être l'a-t-il rasé et déshabillé, non pour répondre à un fantasme quelconque, mais dans l'unique but de l'amener ici, afin de la préparer à une sorte de cérémonie. Cherchait-il à l'offrir au jugement de Dieu dans sa forme primitive, dans cette nudité absolue qui replace tous les humains au même rang? Je fixai un grand vitrail face à moi. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout ramener au sadisme, au fantasme de pervers sexuel. Certains cherchent à atteindre un but plus élaboré. Élaboré comme la présence de ces papillons étranges? Que viennent faire ces sales bêtes là-dedans? Je haussai les épaules. J'en sais fichtre rien. Qu'est-ce qu'on ressasse à leur sujet le plus souvent? Qu'ils symbolisent la beauté, la renaissance, la transformation, lorsqu'ils sortent de leur chrysalide. Ouais, on a peut-être affaire à un fan du silence des agneaux, le genre de mec bien allumé. Allumé ou pas, il témoigne de maîtrise, de sang-froid. La scène est de type organisé. Il suffit d'observer la position de la femme, la présence du miel, le parfum, les papillons. Dans la manière dont a été commis le meurtre, aucune pulsion n'est venue le perturber. Il a gardé son calme et, de ce fait, limité les erreurs. Il a donc préparé son opération à l'avance avec minutie. Il connaît les lieux, le moyen de pénétrer. Peut-être un adepte des messes du dimanche matin. Il nota cette voie d'investigation sur son carnet avant de poursuivre. Il conditionne sa proie, qu'il retient depuis plusieurs jours, la parfume, la rase, la nettoie, il se procure ses insectes et il opère. Le confessionnal en pleine nuit. Je m'approchai à nouveau du lieu de pardon et prolongeai l'idée de Sibersky. Son crime perpétré, dont nous ignorons pour l'heure par quels moyens, il détache les mains de la pénitente pour placer le bras droit d'une façon particulière. Il est évident que l'index de la morte nous signale une orientation à suivre. Pourtant, l'expert a déjà vérifié, et moi aussi, rien de particulier sur les boiseries. Il faut chercher encore. Ce n'est pas la victime qui s'exprime, mais son assassin. Ce fumier a des choses à dire. Je retournais dans la loge, voûté, oppressé par le trop étroit espace. Le mur désigné présentait des rayures, quelques coups, mais rien de concret. Même en cognant sur le bois lisse, je ne discernais nulle variation de densité. Merde.
Ça indique forcément quelque chose. Abstraction faite du confessionnal, la direction pointe cet alignement de colonnes, puis au final, cette partie du mur. Je ne vous ai pas attendu, je l'ai déjà inspecté, trancha Sibirski. Et le sol, les colonnes, rien d'anormal, aucune inscription ou marque étrange. Il faudrait peut-être voir avec le prêtre. Un instant. J'évoluais entre la perfection des ornements, ébloui par l'excellence de la construction. Mes phalanges palpaient la pierre centenaire. Dans le sens suggéré par le doigt mort, rien n'apparut. J'élargis ma zone de recherche. Les bancs, la nef, les décorations sculptées. Échec et encore échec. Le tueur nous parlait et nous refusions de l'écouter. Putain, j'ai horreur de ça. Dernier acharnement visuel, dernière déception. Bon, je file au 36. Le clerc m'attend pour un point. Qui s'occupe de l'enquête de voisinage? Crombé, avec 5 ou 6 hommes. Et de la déposition du curé? Moi, officiellement. Et je suis fichtrement en retard. Il faudra monopoliser un gars pour fouiller l'église. Et s'il faut regarder sous la robe de la Sainte Vierge, on regardera sous la robe de la Sainte Vierge. En approchant de la porte arrière barrée d'un ruban jaune, je m'enquis. Tu m'as dit que cette porte avait déjà été forcée le trimestre dernier. Tu as plus d'infos? Ah oui, fin avril. Le père pense qu'il s'agissait de gitans installés à l'époque à 2 pas de l'église. Qu'ont-ils volé? Rien, juste une visite nocturne. Mon bouc crissa sous un faisceau d'ongles sceptiques. Curieux pour des gitans. J'en ai suffisamment côtoyé pour t'affirmer que le mot « visite » ne fait pas partie de leur vocabulaire. Je sais bien, surtout qu'il devait y avoir pas mal de matos, genre groupe électrogène. Une partie de l'édifice était en rénovation, la voûte et certaines colonnes se fissuraient. Je stoppais net. La troisième dimension. T'aurais pu y penser, le vertical. Quoi ? J'étais déjà revenu au centre de la nef, la tête levée, le regard parcourant le lointain. Des maillages d'ombre, des arcades discrètes s'entrecroisaient sous le ciel de pierre. Cherche, cherche avec moi sur les cintres. Les cintres? Mais comment il y aurait grimpé? Comme les ouvriers, en utilisant leurs échafaudages. Mon cœur se comprima soudain. Là-haut, la fissure, et cette colonne désignée par la victime. Elle a été restaurée en son extrémité supérieure. Ce n'est pas en bas qu'il faut chercher, mais en haut. Le bras tendu, les yeux rivés vers ses hauteurs, je m'écriai finalement. « Prépare-toi à rejoindre Jésus. Aujourd'hui, on va monter au ciel. »